Bonjour à tous et bienvenue sur l'Odyssée d'Asie, le podcast pour découvrir l'Asie. Je m'appelle Brison Nuffel et je vous parle depuis Hanoï au Vietnam. Sur ce podcast, vous l'aurez compris, on va parler d'Asie, à travers des voyages, à travers des interviews ou à travers des conseils. Je vais vous expliquer pourquoi Taïwan est une destination incontournable, je vais vous partager les 5 erreurs que font la plupart des voyageurs avant un voyage au Vietnam, et je vais vous présenter des gens qui vivent en Asie et qui sont particulièrement inspirants.
Surtout s'ils me donnent de l'argent.
Pour rappel, je m'appelle Brice Van Nuffel, je tiens le blog worldwildbrice.net et je vis en Asie depuis 2013. Donc si vous êtes un fan d'Asie ou si vous voulez préparer un voyage en Asie, vous êtes arrivé au bon endroit. Ce que je vous conseille, c'est de monter dans le train, de bien vous installer et de profiter du podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode du podcast où on va parler du delta du Mékong. Mais avant, il faut que je vous explique, puisque cet épisode de podcast, je l'ai déjà enregistré quasiment 3 fois. En fait, j'ai enregistré cet épisode à la fin février, si je ne dis pas de bêtises, donc j'ai enregistré un épisode sur cette introduction du delta du Mékong. Je me suis chauffé, je me suis dit « Allez, j'en enregistre un autre », et j'ai enregistré un second épisode sur les marchés flottants spécifiquement, un truc un peu plus court en gros, même pas une demi-heure, mais pour bien expliquer ce qu'étaient les marchés flottants. Et là, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, avant de le publier, je pars 10 jours dans le delta du Mékong en voyage, en me focalisant beaucoup sur les marchés flottants. Donc en revenant, évidemment, ça avait changé. C'est un peu comme si vous écriviez un bouquin avant un long voyage, et puis en fait, après le voyage, oui, il faut le changer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je me suis chauffé, j'ai réenregistré l'épisode de podcast, et au moment de le monter, je me suis rendu compte que je l'avais enregistré sur le mauvais microphone, donc le son était horrible. Entre-temps, évidemment, j'ai un bébé, et nous sommes allés avec ma femme à Taïwan. Donc, j'ai pas trop eu le temps de réenregistrer l'épisode, pour être honnête avec vous, puisque parfois c'est très bruyant, parfois je suis crevé, tout simplement. Et donc, s'il y a eu un peu de retard, j'en suis navré. Mais ne vous inquiétez pas, le podcast n'est pas prêt de mourir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il marche très bien. Je suis très surpris des résultats. Il y a plein de gens, d'ailleurs ça m'énerve un peu, il y a plein de gens qui viennent en me disant « Hey, je t'ai découvert sur le podcast » ou « Ah, j'ai écouté ton émission de radio et puis je savais pas que t'avais un blog ». J'étais là, putain, ça fait 10 ans que j'écris sur ce blog. Et les gens me découvrent en mode, je suis un animateur genre sur énergie. Bref, pour vous donner une idée d'ailleurs, je pense à ça. L'épisode 13, 12, 11, bref, l'épisode sur les conseils avant d'aller au Vietnam, les 11 erreurs à pas faire, je crois que ça s'appelle. Il y a quasiment 1200 écoutes là. Ce qui est énorme et ce qui est quasiment le double ou le triple de certains épisodes sur la saison 1. Bref, ça c'était une introduction très rapide sur pourquoi l'épisode a du retard. Qu'est-ce que va être cet épisode? En fait, on va se focaliser sur le delta du Mékong. Le but, évidemment, c'est pas de vous parler pendant 5 heures de toutes les destinations possibles dans le delta. Je vais en fait faire cet épisode de podcast en 2 voire 3 épisodes. Le premier, qui est celui que vous écoutez maintenant, ça va être un épisode d'introduction sur le delta. Le but, c'est que vous compreniez bien, en gros, la géographie du delta, 6 points essentiels à bien connaître avant son voyage, 3 zones incontournables. Indice, il faut aller à Cho Doc. On va répéter ce mot plusieurs fois pendant cet épisode. On va parler des transports, on va parler de quelques hôtels à connaître, des itinéraires. Bref, en gros, une introduction au delta. Ensuite, je vais vous faire un épisode sur les marchés flottants uniquement pour vous dire marché flottant A, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant. Marché flottant B, lui il est mort. Marché flottant D, etc., etc. Et je ferai un peu plus tard, pendant cette seconde saison, un épisode Delta du Mékong niveau expert qui va plutôt là cibler les gens qui vont passer peut-être 10 jours, 2 semaines dans le Delta du Mékong. Je pense que ce premier épisode-là, celui que vous êtes en train d'écouter, est plutôt pour les gens qui vont passer en gros entre 3, 4 et 1 semaine dans le Delta. D'accord ? J'espère que tout est clair. On va se lancer dans cet épisode et tout d'abord une espèce d'introduction pour bien comprendre ce qu'est le delta du Mékong et bien évidemment comprendre l'importance de Kanto. Premier point essentiel à comprendre lorsqu'on veut voyager dans le delta du Mékong, le sud du Vietnam n'est pas que le delta du Mékong. Lorsque vous allez à Saigon, oui, vous êtes dans le sud, mais non, ce n'est pas le Mékong. Lorsque vous êtes à Dalat ou dans ce genre d'endroit, Mouné, etc., c'est le sud du Vietnam, mais ce n'est pas le delta. Le delta, pour faire très simple, ça commence à 1h, 1h30 de transport au sud de Saigon, au sud d'Ho Chi Minh-ville. Et généralement, on dit que la porte d'entrée dans le delta, c'est la ville de My Tho, ou My Tho, comme vous écrivez en français, M-Y, plus loin, T-H-O. Pour bien comprendre le delta, il est important de comprendre ce qu'est Kanto. En fait, Kanto, c'est la capitale du delta du Mékong. C'est la ville qui est en plein milieu du delta du Mekong. Et pour faire très simple, c'est l'équivalent de Paris pour la France. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est le hub de tous les transports dans le delta du Mekong. Kanto, c'est une grande ville. Je crois que c'est 1,5 million d'habitants. Il y a un aéroport avec des vols pas trop mal, même des vols internationaux. Et le delta est fait de la façon qu'en fait, c'est difficile de passer partout en voiture. Je vous explique ça rapidement. Le delta du Mekong, il y a des bras absolument partout et certains bras du Mekong sont immenses. Je pense notamment au Bassac, au Cochin, ce genre de choses. Du coup, il n'y a pas 50 000 ponts pour passer ces bras. Vous avez un grand pont à Mithe notamment, vous avez deux grands ponts au niveau de Vinlong, vous avez un énorme pont à Kanto, vous avez un pont qui est très récent, je crois qu'il y a, je n'ai pas envie de dire des bêtises, peut-être 2020, 2019, à Longxuyen, qui est pourtant une énorme ville de delta du Mekong. C'est un peu comme dire, ah ben en fait on est à Lyon, et puis bon, on ne peut pas passer le Rhône. C'est un peu la même idée. En fait, pour passer le Rhône, il faudrait prendre des ferries, et du coup, vous perdez vachement de temps. Pour comprendre ça, c'est qu'en fait, Kanto, vous pouvez aller à Kanto depuis Saigon en ne prenant que des ponts, en allant du coup très rapidement. Donc c'est essentiel de comprendre Kanto parce que vous avez en fait beaucoup de chances d'y passer. Pour aller de Marseille à Lille, pour aller de Marseille à Brest, pour aller de Marseille peut-être même à Strasbourg, vous passez souvent par Paris. Et bien c'est exactement la même chose dans le delta du Mekong. Non, il n'y a pas de train, il n'y a pas de train dans le delta, oubliez ça, mais ça c'est pour tous les bus parce que c'est très simple. Donc même si vous n'avez pas envie d'aller à Kanto, qui est une grosse ville, on va en parler plus tard, notamment pour les marchés flottants, c'est essentiel de comprendre quand même ce qu'est cette ville et que les transports y passent très souvent. Autre point essentiel, d'un point de vue géographie. Le delta du Mekong, c'est une zone qui est plate, plate à mourir. Vous avez quelques montagnes, enfin montagnes, plutôt des collines dans le nord du delta, enfin plutôt l'ouest, mais en remontant en gros le fleuve, à la frontière avec le Cambodge, notamment dans la province de Lan Xang, et un peu moins dans la province de Kienzang, autour de Hatien et autour de Chodok. Mais sinon, le delta du Mekong, c'est toujours plat, plat, plat et encore plat. L'énorme avantage du delta d'un point de vue climat, c'est qu'il fait beau et chaud au moment généralement où les gens viennent d'Europe au Vietnam. Donc de novembre à mars, c'est la meilleure saison entre guillemets pour découvrir le delta du Mekong et c'est évidemment le moment où les gens sont en France, en Belgique, en Suisse, je ne sais où, il fait super froid et ils ont envie un peu de voir le soleil. Donc le delta, généralement, ça fonctionne très bien d'un point de vue du climat. Je parle du climat, je parle des voyages. Il y a un point essentiel à comprendre aussi, c'est que le delta, c'est une zone magnifique. Et c'est une zone où, si vous allez trop vite, vous n'allez pas aimer. Faire le delta du Mekong, et j'utilise le mot faire le delta, à la journée ou en deux jours et une nuit, ça fonctionne rarement. Vous passez beaucoup de temps dans les transports, vous ne voyez au final que peu de marchés, vous prenez pas le temps de rien faire avec un café au bord de la route ou à l'ombre des palmiers et du coup ça fonctionne moins bien. Si vous préparez votre voyage un minimum, vous pouvez sans problème passer une semaine à 10 jours dans le delta du Mekong. J'insiste là-dessus. Mais encore une fois, il faut préparer son voyage. Si vous ne préparez pas votre voyage, vous arriverez dans des endroits souvent un peu nuls, un peu trop touristiques ou les endroits que vous avez vus sur le forum du routard qui vous disent « il faut aller à An Minh parce que c'est incroyable ». Faites bien attention à ça, c'est pas du tout incroyable. Mais le delta, c'est une zone de dingue. J'ai fait plusieurs voyages très longs. Là, je reviens de... Je crois que j'ai passé 10 jours où je suis parti de Kanto, je suis allé dans la province de Kamo, je suis allé Namzhou, où il y a aussi pas mal d'îles autour du delta du Mekong. Il n'y a pas que Phu Quoc, il n'y a pas que Kondao, il y en a d'autres. Bref, préparez votre voyage et le delta du Mekong ne vous décevra pas. Ça, c'était une rapide introduction au delta. Maintenant, je vous parle de 6 points essentiels à comprendre avant votre voyage. Premier point essentiel à comprendre avant votre voyage dans le delta du Mekong, verger versus rizière versus noix de coco. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans l'imaginaire collectif, le delta du Mekong, c'est le grenier à riz du Vietnam. Alors ça, c'est très vrai. Mais il n'y a pas que du riz partout dans le delta. Si vous faites un voyage Saigon, Benche, Bentre, Kanto, Saigon, vous ne voyez quasiment pas de rizière. Ça paraît bête, vous êtes parti dans la zone qui était hyper connue, c'est un peu comme aller en Provence en juillet et pas voir de lavande, bah, c'est impossible, c'est très connu pour ça. Bah, si, c'est possible. En fait, il y a beaucoup de vergers, notamment dans la zone autour de Kaibé, le sud de Sadec et un peu de province de Vinlong. Là, vous avez principalement des arbres fruitiers. Donc, vous ne voyez pas de riz, par contre, vous voyez pas mal de fruits. Alors, il y a un peu tout dans le delta, un mangue, il y a vraiment tout type de fruits. Vous avez, dans certaines zones, beaucoup de noix de coco, voire quasiment que ça. C'est très vrai notamment dans la province de Benche, donc Bentré en français. Là, il n'y a que de la noix de coco. Tout le monde connaît Benche au Vietnam pour ses noix de coco. Je crois que c'est la moitié des arbres, des cocotiers, au Vietnam, ou la moitié des arbres qui font des noix de coco. Bref, la noix de coco, c'est un élément essentiel de la vie à Benche, pour les paysages quand on est un touriste, mais aussi pour le business local. D'ailleurs, quand vous serez à Benche, vous verrez, tout le monde bosse la noix de coco, on les coupe, on les boit, on en fait un peu tout. Dernier point, évidemment, les rizières. Vous avez d'immenses rizières. Des rizières où, si vous voyez à 50 km devant vous, il y a 50 bornes que de rizières, c'est tout plat et c'est que du riz. Comment savoir où vous allez mettre les pieds? C'est très simple. Généralement, ça dépend un peu des provinces. Donc, si vous allez à Benche, vous allez sûrement voir beaucoup de noix de coco. Si vous allez autour de Kaibé ou dans cette zone-là, vous allez sûrement voir beaucoup de vergers. Et si vous allez plutôt dans la partie un peu plus au nord du delta, toute la partie de Lanzang, toute la partie de Kianzang, vous allez voir énormément de riz. Alors, je ne vais pas vous dire que vous ne pouvez pas voir de riz dans les autres provinces, puisque ce serait complètement faux, mais c'est plus difficile à décrire. Comment savoir si vous allez voir du riz, des vergers ou des noix de coco? C'est assez simple. Vous ouvrez Google Maps et vous mettez Google Maps en satellite. Quand vous êtes en satellite, vous allez en fait voir la culture ressortir avec les couleurs. Donc quand vous allez bien voir les immenses étendues de rizières, et quand vous êtes à Benche, il n'y a quasiment pas de riz. Par contre, si vous allez un peu plus au sud de Benche, qui est techniquement toujours dans la province de Benche, mais vous allez voir Bachi, Batri, B-A plus loin, T-R-I, et là il y a beaucoup de riz, ça se voit, c'est tout bête, mais c'est sur Google Maps, vous verrez directement les résultats. D'ailleurs j'y pense, j'ai oublié d'en parler dans mon introduction, il y a un système un peu horrible parfois au Vietnam, mais comme d'habitude, le nom de la province vient souvent du nom de la ville principale. Donc je parle de Benche, qui est une ville, qui est la capitale de la province de Benche. On va parler plus tard de Chavin, qui est la grande ville de la province de Chavin. Eh oui, c'est très simple pour les podcasts, ils n'ont pas pensé à nous. Ça fonctionne pour Sóc Trăng, ça fonctionne pour Camus, ça fonctionne pour pas mal de provinces. Donc faites attention à ça. Premier point, verger, rizière, noix de coco. L'idéal est évidemment de mélanger deux, au moins, cultures, puisque ça vous donne une vision différente. Pour ma part, je ne suis pas fan du tout des vergers, qui ne donnent pas des paysages très beaux. Surtout lorsque, typiquement, on préserve les fruits, par exemple, des oiseaux, ce genre de choses, il y a des sachets de plastique autour, c'est pas très beau. Donc les noix de coco, oui, aller à Benche, c'est un grand oui, Benche c'est hyper intéressant, les rizières c'est un grand oui, les vergers généralement ce sont pas des zones très très belles. Je reprends mon souffle, on est bon, partie 2. Attention aux grandes villes du delta du Mekong. Donc encore une fois, on a parlé de le delta du Mekong, c'est le grognari, donc je vois que du riz. Le delta du Mekong, c'est que du riz, donc il n'y a que des petits villages un peu perdus. Non, non et encore non. Chaque capitale de province, en gros, c'est 100 à 300 000 habitants. D'accord ? Donc ce sont des vraies grandes villes. Et Kanto, c'est plus d'1,5 million d'habitants. Donc à Kanto, vous avez une ou deux très grandes tours. Dans les villes et dans les capitales de province, ça reste des villes vietnamiennes, beaucoup trop bruyantes pour les Français généralement. Quelques buildings, des marchés, une grande surface, souvent un Jollibee ou un KFC, ce genre de choses. Donc là, ça peut être... c'est un peu bizarre. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Toutefois, l'énorme avantage des villes dans le Delta, c'est qu'elles sont très colorées. Pourquoi colorées? Parce que généralement, les mamies notamment qui vont au marché portent des espèces de... Alors, ce n'est pas des costumes, ce n'est pas des pyjamas, mais je pense que ça ressemble un peu par moment, de toutes les couleurs avec le chapeau conique. Du coup, ça fonctionne quand même. Mais faites attention à ça. Si vous ne réservez des hôtels que dans les villes principales, vous allez faire que de l'urbain, entre guillemets. Vous aurez peut-être un peu la chance de faire du vélo autour, de quitter un peu la ville. Mais faites attention à ça. Dormez dans des villes, c'est intéressant. Il y a des grands marchés, c'est hyper cool. Il y a toujours 50 000 gens qui vendent des jus de fruits, ce genre de choses, des cafés. Mais essayez de mélanger un peu les deux. Sinon, vous risquez de rester dans les villes et de moins voir cette partie calme, où il ne se passe pas grand-chose, hormis des karaokés et des coqs qui hurlent à 5h du mat. Mais ça, ça fait aussi partie du delta. Troisième point, les influences khmer, françaises, chinoises. En fait, le delta du Mekong, ce n'est pas une zone qui est 100% d'influence vietnamienne, on va dire. Historiquement, il y a toujours eu beaucoup de personnes d'origine khmer dans le delta du Mekong. mais pas partout. D'accord ? Vous avez des zones en revanche où vous allez voir pas mal de pagodes qui ressembleraient plus à la Thaïlande, au Cambodge ou à la Birmanie qu'au nord du Vietnam. Ces zones-là, je pense notamment à Chavin, à Sok Chong et à Chiton. Alors ça s'écrit T-R-A plus loin V-I-N-H, S-O-C plus loin T-R-A-N-G, ou Chiton, ça c'est carrément un district dans une province T-R-I plus loin T-O-N. Ce sont des zones qui sont différentes et qui apportent de la variété. Je vous ai dit mélanger les noix de coco et les rizières, bah, c'est la même chose. Mélanger les grandes villes vietnamiennes ou la campagne vietnamienne avec pourquoi pas bah, une journée plutôt dans une zone où il y a pas mal de gens d'origine Khmer, entre guillemets, qui sont vietnamiens, hein, mais les Khmer c'est une minorité. C'est la même chose, il y a des gens d'origine chinoise au Vietnam, c'est une minorité. Il y a des gens qui sont Hmong, c'est une minorité. Ils sont quand même vietnamiens. Bref, faites ça parce que ça va vous donner une autre vision du Vietnam et de l'état du Mekong. C'est la même chose parfois avec des influences françaises, où vous allez voir peut-être des vieilles maisons coloniales ou ce genre de choses qui peuvent être très intéressantes. J'ai parlé notamment de My Tho. My Tho, c'est le premier arrêt de train au Vietnam. Donc la première ligne de train, c'était My Tho Saigon. Alors, elle n'existe plus. Hein. Mais dans l'idée, il y a quelques influences comme ça qui peuvent être assez intéressantes. Et surtout, une influence qui est beaucoup plus facile à percevoir et à voir, c'est les influences chinoises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a toujours eu historiquement beaucoup d'immigration chinoise et qui se focalise principalement dans les villes. Donc c'est la même chose, hein. Les personnes d'origine chinoise, les Hoa, sont une minorité au Vietnam qu'on trouve notamment à Cholon, qui est l'équivalent de Chinatown à Saigon, qui est un quartier vraiment superbe de Saigon. Mais c'est la même chose dans le Delta. Généralement, dans les centres-villes, vous retrouvez souvent une grande pagode plutôt d'origine chinoise, quelques restaurants qui vont avoir les noms un peu, pas forcément chinois complètement, hein, mais un mélange des deux. Et du coup, c'est assez intéressant de voir peut-être d'autres types de maisons, plutôt des shop house et ce genre de choses. C'est notamment quelque chose qu'on voit beaucoup à Sa Đéc. Pourquoi je dis Sa Đéc ? Parce que c'est un épisode d'introduction dans Delta. Du coup, on va parfois me demander « Hey, Marguerite Duras !» En fait, la maison de l'amant de Marguerite Duras est à Sa Đéc. Son amant était justement d'origine chinoise. Et du coup, la maison, on dit souvent la maison de Marguerite Duras, mais c'est la maison de son amant, c'est typiquement, ça ressemble à un temple chinois. Et à Sa Đéc, vous avez plusieurs temples chinois assez sublime. Il y en a un qui est vraiment magnifique, que vous trouverez facilement sur le blog. Et vous avez aussi beaucoup de shop house. Vous savez, ces maisons typiques, entre guillemets, des Chinois ou des commerçants chinois. Le rez-de-chaussée pour faire du business et pour vendre un X ou Y produit. Et l'étage pour vraiment y vivre. Et bien ça, vous le voyez beaucoup à Sa Đéc, mais vous le voyez dans plein de villes du Vietnam. À Cam Mo, qui est une ville du delta du Mekong, bah, y a le grand temple chinois au milieu. À Kanto, c'est la même chose lorsque vous baladez sur Ninh Kieu, le grand temple chinois. Parfois, ils ont le nom de guildes en fonction de la province d'où les gens venaient à l'époque. Ça, c'est très vrai, par exemple, à Hoi An. Vous avez encore la maison communale, je crois, du Funan, du Hainan, et je crois une autre province, je ne sais plus laquelle. Et c'est la même chose dans le delta du Mekong, donc plusieurs types d'influences. Si vous ne savez pas qu'il y a ces influences, vous allez rarement tomber dessus un peu par hasard, ou vous allez mal les comprendre, que ce soit khmer, française, chinoise. Essayez de bosser un peu l'itinéraire à l'avance et de comprendre dans quoi vous mettez les pieds parce que ça devient beaucoup plus intéressant. Je parle d'ailleurs d'une influence un peu bizarre, mais si vous êtes en train de terminer votre doctorat d'histoire sur les civilisations d'Asie du Sud-Est, vous serez peut-être intéressé par Ok Eo, qui s'écrit O-C plus loin Eo, qui est l'ancienne capitale du royaume du Funan, qui est un royaume pré-ankorien. Un peu galère à visiter, il reste pas grand-chose, c'est toujours un sujet pour les blagues avec ma femme, puisque je l'ai emmenée dans ce bourbier d'aller visiter Ok Eo une journée. Mais il y a un musée, j'ai failli dire très sympa, je ne sais pas si c'est très sympa, mais il y a un musée qui honnêtement tient la route si vous êtes passionné, et ils vendent des bouquins sur le royaume, donc c'est assez intéressant. On a parlé des vergers, des rizières, des noix de coco, on a parlé des grandes villes, on a parlé des influences diverses, maintenant on va parler des marchés flottants. Je mets un jingle ou pas ? Non, il n'y a pas de jingle. Les marchés flottants, qu'est-ce que c'est ? En gros, les marchés flottants, c'est la meilleure façon de se planter dans le delta du Mekong. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens imaginent que c'est le truc à voir dans le delta du Mekong. Si vous partez comme ça, mais c'est sûr, vous foncez dans le mur, parce qu'en fait, les marchés flottants, ce sont des visites très courtes, très rapides et qui peuvent vous décevoir. Si vous prévoyez un itinéraire de 3 jours et que le marché flottant, c'est le seul truc que vous voulez vraiment voir, bah vous allez passer en bateau, vous allez passer 15-20 minutes max, une demi-heure max, vous allez terminer, vous allez dire « Mais putain, c'est quoi ce truc ? Pourquoi je suis venu ici ?» En fait, les marchés flottants, c'est entre guillemets la cerise sur le gâteau qui doit vous permettre de voir encore une fois une autre facette du delta du Mékong, mais il ne faut surtout pas prévoir son voyage uniquement pour ça. Sinon, clairement, vous allez vous planter. Faites attention, et ça, c'est des infos de 2023, donc très récentes, puisque je viens de retourner dans quasiment tous les marchés flottants. La réalité, c'est qu'il n'y a quasiment plus aucun marché flottant d'actifs. Le marché flottant de Kairang, donc le marché principal de Kanto, il a pris un énorme coup avec le Covid, mais énorme. J'y suis retourné, j'ai trouvé ça naze. Je ne retournerai pas à Kanto pour revoir Kairang dans ces conditions. Il reste le marché de Fengxian, qui est un marché à l'extérieur de Kanto, où il y a 20 bateaux. Donc ça fait une belle photo, ça fait un café sympa pendant 10 minutes à regarder les bateaux, mais c'est à peu près tout. Et il reste encore le marché flottant de Longxian, qui lui est encore à peu près actif. Et encore, je dis à peu près, ne vous attendez pas à avoir des centaines de barques, ou même des dizaines de barques avec des mamies qui vendent et échangent. Non, non, pas du tout. C'est un lieu de vente en B2B. Mais ça, les marchés flottants, on va en reparler dans le prochain épisode. Faites cependant très attention à ça. Il est tout à fait possible d'aller dans le delta du Mékong et de ne pas visiter le marché flottant. D'accord ? C'est pas une hérésie, loin de là. Et d'ailleurs, les plus belles zones du delta du Mékong, qui sont Chavin et Cho Dock, dont on va reparler très bientôt, n'ont pas de marché flottant. C'est vraiment pas un énorme problème. Et d'ailleurs, même, j'ai presque envie de vous dire, aller dans les marchés flottants, c'est souvent la meilleure façon de se planter, surtout si vous avez peu de temps. Autre point que je souhaite aborder, c'est le climat, très rapidement. Faites attention à ça. Généralement, lorsque vous voulez aller au Vietnam en décembre, en janvier, vous dites « Ah, on va passer du temps à Hanoï. » Ah bah oui, il fait gris et moche. « Ah, on va passer du temps dans le centre. » Ah bah oui, c'est la saison des pluies. Dans le delta du Mékong, en hiver, c'est généralement la meilleure période. Donc, encore une fois, un gros plus pour y passer du temps. J'ai parlé plus tôt dans le podcast, en gros, de novembre à mars. Faites attention quand même, hein, mars, il commence à faire très chaud. Là, j'étais mi-mars dans le delta. Franchement, c'est l'horreur. Donc, quand, enfin, oui, c'est ça, c'est l'horreur. Je devrais peut-être pas dire ça ici, mais à une heure, si vous n'êtes pas habitué à la chaleur, mais si vous êtes dans une zone bétonnée, où il n'y a pas d'arbres, vous avez l'impression qu'il fait 50 degrés, vraiment. Donc, faites attention à ça. D'ailleurs, c'est peut-être un point que je dois aborder à ce moment-là. Le delta du Mékong est vivant le matin et en fin d'après-midi. Parce qu'en fait, les gens se réveillent très, 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 très tôt. D'accord ? Si vous sortez dans Kanto dehors à 5h30 du matin, vous allez voir plein de gens au café, ce genre de choses. Très courant pour eux. Et vu qu'en milieu de journée, il fait souvent très chaud, les gens ne sortent pas, ils restent chez eux et ils ressortent en fin d'après-midi. Donc, le delta, généralement, ça se visite de 5h du matin à 11h du matin et de 15h à 18h. Alors certains vont dire 5h, 10h et 14h, etc. Mais vous avez un peu l'idée. C'est très courant de ne rien faire en milieu de journée dans le delta. Donc si vous aussi vous êtes un peu fatigué, n'hésitez pas à faire une petite sieste. Sixième point essentiel à comprendre avant votre voyage, le delta du Mékong, c'est un des endroits les plus photogéniques du Vietnam, surtout pour les gens. En fait, généralement, les voyageurs ont tendance à penser que dans le nord du Vietnam, ils vont faire des photos de malades avec les ethnies, la mamie qui va leur faire un sourire avec son costume complet, etc. Ça, c'est des conneries. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, dans le nord du Vietnam, généralement, les minorités s'en foutent de vous, sauf si vous vendez quelque chose. D'accord ? Là, je fais évidemment des très grands raccourcis. Certains vont me dire « Ah, mais moi, je suis allé à Dien Bien Phu, j'ai fait 3 heures de moto, j'étais chez les gens. » Ça, je suis d'accord avec vous, d'accord ? Mais dans 9 cas sur 10, généralement, c'est que c'est lié à du marchandage où généralement, les ethnies s'en foutent puisqu'ils n'ont rien à gagner et que vous êtes le dixième de la journée qui passe pour faire une photo. À l'opposé, dans le delta du Mékong, les gens sont beaucoup plus chaleureux. Vous êtes dans le sud du Vietnam. Les paysages sont moins impressionnants que dans le nord du Vietnam. Hein. Ce n'est pas Hazang, ce n'est pas Cao Bang notamment. Mais pour faire des photos des gens le matin au marché, avec les chapeaux coniques, dans leurs costumes un peu de toutes les couleurs sur leur barque, etc., c'est le top du top. Dans le sud du Vietnam, bon, et aussi dans le centre du Vietnam, c'est vrai, hein, mais c'est plutôt faux dans le nord du Vietnam, les gens sont beaucoup plus accueillants, vont vous dire bonjour, vont rigoler avec vous beaucoup plus facilement que dans le nord du Vietnam. Donc si vous êtes un passionné de portraits, que vous, votre but, c'est de faire des photos des mamies le matin au marché, vous allez avoir des résultats beaucoup plus importants dans le sud du Vietnam. Les gens sont beaucoup plus sympas, vont avoir tendance à rigoler. Bref, ne pensez pas que dans le delta du Mékong, on ne peut pas faire des photos de malades. J'ai vraiment beaucoup de photos hyper impressionnantes du delta. Les reflets, le matin avec la mamie qui passe en vélo avec son pyjama de toutes les couleurs, ça c'est dans le delta. Les photos au-dessus d'une mamie en train de ramer sur sa barque, ça c'est dans le delta. Des photos du lever de soleil complètement dingo avec quelques bateaux qui sont amarrés avec des lumières en train de vendre des pastèques, ça c'est le delta. Donc ne pensez pas que dans le delta on ne fait pas des photos de malades, C'est complètement faux. C'est un des endroits les plus photogéniques pour moi. Bon, on a assez parlé des conseils généraux sur le Delta et de à quoi s'attendre. Maintenant, focus sur les trois zones incontournables du Delta. Alors, elles ne sont pas d'ailleurs incontournables pour les mêmes raisons. Je vais vous parler de Kanto, je vais vous parler de Chodok et je vais vous parler de Chavin. Kanto est incontournable d'un point de vue de l'organisation, puisque pour les transports, c'est une zone hyper importante, et parfois pour les marchés flottants. Mais pour moi, d'un point de vue beauté, Kanto, avec la disparition progressive du marché flottant de Kairang, n'est pas incontournable du tout. À l'opposé, Chodok est la plus belle zone du delta du Mekong, c'est une des plus belles zones pour moi du Vietnam même, zone incroyable, sous-cotée. Je pense que toutes les semaines, j'ai un commentaire ou un email sur le blog de gens qui me disent « On est à Chodok, on a adoré, super cool, par contre attention, là, petite erreur, et là, on a bien aimé tel restaurant. » Toutes les semaines. Troisième zone à connaître, qui est pour moi la seconde zone la plus belle du delta du Mekong, c'est Chavin, Travin, d'accord ? On va se focaliser là-dessus. Premier point, Kanto. Kanto, donc, c'est la très grande ville du delta du Mekong, la zone pour les transports. Faites bien attention à ça, vous pouvez notamment voler directement depuis certaines villes jusqu'à Kanto. Kanto a un énorme défaut, c'est que son marché flottant est quasiment mort, d'accord, le marché flottant de Kairang. Donc si vous allez à Kairang, voyez ça comme une matinée de visite de Kanto, puisque vous allez voir Kairang, le marché flottant, vous allez voir notamment une fabrique de nouilles, vous allez peut-être voir un verger, vous allez sûrement passer au niveau du marché terrestre de Kairang, qui est lui une tuerie, qui est génial pour la photo, il est ouf, ouf, ouf. Mais ne voyez pas ça comme « Ah, on passe la matinée pour le marché flottant ». Parce que là, vous allez vous dire « Mais dans quoi je suis arrivé ?» En fait, le marché flottant, il y a beaucoup moins d'activités qu'avant. Il y a toujours beaucoup de touristes. Donc maintenant, vous voyez beaucoup plus les touristes qu'avant. Ça donne l'impression d'une sorte de chemin organisé. Donc faites attention à ça. Si vous passez à Kanto, je vous recommande de dormir à l'extérieur de Kanto. Si vous y passez plus d'une nuit, notamment deux nuits, vous avez des homestays qui sont un peu à l'écart et pas très loin du marché flottant de Fengxian, qui est l'autre marché flottant, beaucoup moins touristique, beaucoup plus petit aussi. Mais faites attention à ça. Si vous ne passez en revanche qu'une seule nuit à Kanto parce que il faut qu'on passe par Kanto parce qu'avant on reprend un bateau pour Kondao, on reprend notre vol pour Phu Quoc, ça c'est très courant, c'est le genre de problème très courant, passez qu'une seule nuit, dormez dans la ville, ça vous évitera de perdre beaucoup de temps. Allez au marché flottant quand même. Je ne vous dis pas de ne pas y aller, parce que ça reste sympa, mais vos attentes, quoi, faites très attention. Si vous avez des attentes extraordinaires sur le marché flottant, parce que vous avez vu l'article d'une agence d'il y a 6 ans qui vous parlait d'un marché extraordinaire avec des centaines de bateaux, vous allez vraiment être déçu. N'hésitez pas d'ailleurs, vous pouvez la regarder sur le blog directement si vous allez dans la partie Delta du Mekong. Vous verrez mon dernier retour qui date de mars 2023 sur le marché. Et je pense que ça vous donnera une bonne idée de ce qui est réellement maintenant le marché flottant et de ce qui est réellement d'ailleurs Kanto. Deuxième zone incontournable dont je veux parler, c'est Chodok. Chodok est une ville dans la province de Lanzhang, A-N plus loin, G-I-A-N-G, à ne pas confondre avec Hazang dans le nord, là c'est Lanzhang. Chodok, c'est une zone de déglingo complet. Alors, la ville de Chodok, c'est pas une ville énorme, c'est même plutôt une petite ville pour le delta du Mekong. Donc vous trouvez tout ce que vous souhaitez, ça reste une vraie ville, mais c'est pas trop gros pour que ça devienne horrible. À l'intérieur de Chodok, vous n'avez plus de marché flottant. En revanche, vous avez une minorité cham, qui est une minorité musulmane. Donc il y a pas mal de mosquées, c'est assez intéressant à voir. Vous allez voir des femmes qui portent le voile avec le chapeau conique vietnamien. Il y a aussi quelques plats, nourriture qui sont assez différents. Donc Chodok, la ville en elle-même, est assez intéressante. Vous avez aussi pas mal de shop house d'influence chinoise, vous avez un grand marché. C'est une ville qui fonctionne puisqu'il y a aussi pas mal de maisons flottantes. Les maisons flottantes, c'est plutôt en gros des zones, des maisons en gros, comment expliquer ça? C'est plutôt des faits pour le business dans le sens où en fait sous la maison, vous avez une ferme piscicole. Donc c'est le moment où vous avez tous les poissons qui seront vendus plus tard, donc c'est des vrais investissements. Mais c'est toujours intéressant, assez beau, vous avez le canal de Vinh Thế, qui est un canal qui, historiquement d'ailleurs, un vieux canal, un canal hyper important dans le delta du Mekong. Et ça, c'est que dans Chodok directement. Ensuite, lorsque vous commencez à sortir de Chodok, il vous faudra un scooter ou une voiture, ce genre de choses, vous avez 50 000 trucs à voir. Et c'est d'ailleurs ça, la spécificité de Chodok, qui est que vous pourriez y passer 2-3 jours sans problème, ce qui est beaucoup plus dur dans d'autres zones du delta où vous avez l'impression de tourner en rond. À Chodok, vous n'aurez pas l'impression de tourner en rond. Autour de Chodok, juste à côté, vous avez notamment le mont Nui Sam, qui est un endroit hyper important, un lieu de pèlerinage. Pendant que le voisin est en train de déplacer des meubles, Nickel, Jean-Mich, vas-y, déplace le canapé. Pour revenir au Nusam, Nusam, c'est en gros une espèce de colline qui donne une vision assez sublime de la région autour de Chodok, puisqu'il n'y a que du riz. Si vous allez à Chodok, c'est impossible de ne pas avoir de riz. Impossible. Chodok est entouré de rizières et des rizières immenses. Nusam, il faut pas forcément y aller pour les temples. Alors, passez rapidement pour les temples. Il y en a pas mal, notamment juste en dessous de la colline. C'est assez intéressant, mais bon, ça se fait rapidement. Par contre, ce que je vous recommande vivement, pas forcément d'y dormir, mais au moins de faire un coucher de soleil, c'est d'aller au Victoria Nusam, qui est un hôtel sur cette colline, qui a une vue de déglingo. Alors vraiment, c'est une des plus belles vues que vous aurez au Vietnam, sur les rizières autour. Il y a quelques collines en plus au loin, donc ça fait des photos vraiment sublimes. Et il y a la plus, je pense, une des plus belles piscines, une des plus belles vues que vous pourrez voir au Vietnam, puisque la piscine domine totalement les rizières. Là, je peux en parler pendant 10 minutes. Vous tapez Victoria Nusam, N-U-I, plus loin, S-A-M sur Google. Vous allez avoir votre réponse en 2 secondes. Vous allez voir la photo de la piscine. J'aime beaucoup l'hôtel. Hein, si vous pouvez y dormir, dormez-y. Vous avez un autre Victoria à Chodok, dont on va parler un peu plus tard. Super endroit. Mais ça, c'est juste à côté de Chodok. C'est littéralement à 15 minutes de route. Si vous continuez plus loin, vous avez la forêt de Chasu, qui est un endroit hyper connu, notamment parce que vous avez toutes les feuilles sur l'eau. Ça donne des reflets. Vous passez en bateau. La forêt de Chasu a été rachetée par une boîte il y a quelques années, donc ça devient de plus en plus Instagram et de moins en moins mamie à l'arrache qui veut faire un tour de bateau, mais ça fonctionne toujours autant, c'est toujours beau, c'est toujours très sympa et c'est toujours un incontournable si vous êtes dans la zone. Juste autour de cette forêt de Chasu, qui est en gros à 1 heure de route de Chodok, pour faire très gros, vous avez aussi la zone de Chiton, qui est une zone du coup aux influences Khmer, où vous allez voir des palmiers à sucre, vous allez voir pas mal de pagodes. Si d'ailleurs vous cherchez quelque chose de vraiment différent, n'hésitez pas à dormir à Chiton, puisque c'est une ville de district aussi, et du coup vous avez quelques hôtels. Peu de gens qui parlent anglais, mais ça vaut le coup. Chiton est très connu pour les photographes. Vous avez beaucoup de photos du delta du Mekong avec les palmiers à sucre, la mamie sur son petit bateau, ce genre de choses qui sont faites à Chiton. C'est aussi un endroit pour les pubs. Peugeot avait shooté une de ses pubs pour ses voitures là-bas. Donc ça, c'est aussi très beau. Et c'est dans la région de Chodok. Vous restez, vous êtes toujours dans la province de Lan Xang. Si vous allez plus à l'est de Chodok, vous avez d'autres découvertes à faire. Je pense notamment à Tan Chau, qui est une ville à l'est de Chodok avec une espèce de quartier chinois tout petit, mais hyper photogénique. Il y a plusieurs films qui ont été tournés là-bas. Lorsqu'il faut faire des scènes, en gros, avec ce genre de décor assez photogénique, ça, c'est à Tan Chau. Et dans l'idée, toute la province autour de Chodok, toute la zone autour de Chodok est magnifique. Vous avez des bras du Mekong, vous avez des rivières de partout, vous avez des canaux, vous avez des rizières, vous avez des pagodes. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à voir. Et d'ailleurs, j'y pense, puisqu'on parle de Chodok, juste en dessous de Chodok, à 1h30 de route, vous avez Long Suyen, qui est un des derniers marchés flottants. Pourquoi pas combiner les deux ? Ah, c'est pas moi qui vous ai donné l'idée. Troisième région importante à connaître, c'est la province de Cha Vinh ou la ville de Cha Vinh. Cha Vinh, c'est... Alors, j'ai pas envie de dire un sous-Chodok. Cha Vinh, c'est plus simple à organiser déjà. C'est beaucoup plus proche de Saigon. Puisque Chodok, on n'en avait pas parlé, mais c'est assez loin. Hein, c'est quand même à 5 heures de route. Quand vous êtes à Cha Vinh, en gros, Cha Vinh, c'est aussi pareil des influences Khmer dans certains districts. Pas partout. Hein, la province. Voyez pas ça comme une province peuplée de Khmer. Hein, c'est pas du tout le cas. Mais lorsque vous êtes dans la ville principale, bah, vous avez quelques dizaines de pagodes aux influences Khmer. Vous avez un musée de Cha Vinh, en gros, où vous allez voir aussi ces influences Khmer. Donc, c'est assez intéressant à voir. Cha Vinh a l'avantage énorme d'être beaucoup plus facile à intégrer, notamment si vous êtes déjà à Ben Chie ou notamment si vous allez à Kanto. Cha Vinh est beaucoup plus proche et beaucoup moins excentré. Donc pour certains qui vont se dire « Chodok, c'est à l'autre bout du monde, mec, t'es bien mignon toi, mais on a que 2 jours », regardez bien Ben Chie, Cha Vinh et Kanto. En fait, ça fait une espèce d'arc, de demi-cercle, et c'est assez facile à combiner en même temps. Cha Vinh, pareil, paysage sublime par moment, beaucoup de rizières, quelques pas de pagodes Khmer, pardon, certaines très importantes dans l'ouest de la province, plutôt un peu plus excentrées. Le défaut de Cha Vinh, c'est qu'il y a très peu d'hôtels au final pour les voyageurs, mais vous avez le Coco Riverside Lodge qui est à la frontière de la province, qui permet quand même de découvrir, entre guillemets, cette partie si vous faites du scooter. Pensez-y, on va reparler du Coco Riverside Lodge un peu plus loin. C'est difficile de vous expliquer Cha Vinh comme ça, parce qu'au final, il n'y a pas 50 000 trucs à visiter. C'est pas comme à Chodok où je dis « Ah ouais, il y a la forêt de Chasu, ah ouais, il y a Nusam. » Cha Vinh, c'est juste beau, c'est juste très très beau même. Donc quand vous vous baladez en scooter à partir d'un quart d'heure autour de la ville, vous allez dire, putain, ouais, vraiment magnifique. Le marché central de Cha Vinh le matin, ah ouais, franchement, il envoie les steaks. Si vous avez beaucoup de chance et que vous êtes pendant un festival Khmer, pareil, ah ouais, la vache, il y a de l'activité, c'est vraiment beau. Donc pensez à Cha Vinh, très intéressant. Chodok est mieux que Cha Vinh, mais beaucoup de gens n'ont pas le temps d'aller à Chodok. Donc Cha Vinh est un bon remplacement, une bonne porte de sortie, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais vous avez compris l'idée. On a parlé des éléments essentiels dans Delta, on a parlé de Kanto, de Chodok et de Chavin. Et oui, j'adore Chodok, j'y suis allé 50 000 fois, c'est une zone complètement folle. On va maintenant parler rapidement des transports, puisque c'est souvent un truc qui fait peur aux voyageurs dans Delta, alors qu'en fait c'est relativement simple. Premier point essentiel, si vous venez du centre du Vietnam ou du nord du Vietnam, je vous en conjure, ne prenez pas votre vol jusqu'à Saigon. Vous pouvez très facilement prendre un vol de Da Nang à Kanto, de Hanoï à Kanto, très facilement, de Dalat à Kanto. Vous n'avez pas forcément besoin de repasser par Saigon, donc faites attention à ça. À chaque fois que je vais dans le Delta, je ne passe jamais par Saigon. J'habite à Hanoï, d'accord, je prends mon vol pour Kanto, c'est 10 fois plus simple, on gagne vachement de temps, et en plus, souvent, les vols ne sont pas très chers. Autre point essentiel, souvent, le fait de passer de plusieurs villes d'une ville à l'autre fait un peu peur dans le Delta, puisqu'on trouve assez peu d'informations. Ne vous inquiétez pas, toutes les villes sont connectées par des bus. Alors, il n'y a pas 50 000 bus par jour non plus, si vous allez de Benche à Kanto, mais si vous devez aller de Benche à Kanto, sur Internet, parfois, vous ne trouverez pas de bus, vous allez dire « Merde, merde, mais qu'est-ce qui se passe ?» À Benche, il y a 150 000 habitants, je crois, ou 180 000 ou 120 000, bref, plus de 100 000 habitants. Il y a forcément, tous les jours, 15 mecs qui ont envie d'aller à Kanto, et sur le chemin, il y a forcément 15 autres mecs qui vont trouver pour aller à Kanto. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura forcément des bus. Ce n'est pas si compliqué que ça. Encore une fois, puisqu'on parle des bus, regardez du côté de Futa, F-U-T-A. Ils ont un site en anglais, vous pouvez réserver les bus sur Internet en anglais. C'est très simple, ils vous expliquent quel bureau aller. Donc si vous voulez aller de Chodok à Kanto, que vous êtes le soir à votre hôtel, vous n'avez même pas besoin de vous embêter. Vous tapez futa.vn.en, je crois, enfin, vous le trouvez très facilement. Vous bookez votre bus qui va vous dire « Ah, l'endroit de début, c'est notre bureau Chodok rue XYZ ». À 8 heures, vous allez là-bas à 8 heures, et puis c'est très simple, le bus est déjà là. Donc les bus en général, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Entre les villes principales, c'est même vraiment très simple. Autre point essentiel, qui est un truc qui peut vous sauver beaucoup de temps souvent, c'est que les distances ne sont pas si énormes que ça dans le Delta. Je prends un exemple bête. On va parler un peu plus tard du Coco Riverside Lodge, qui est un endroit entre Saigon et Kanto, entre guillemets. Et pour repartir de Coco Riverside Lodge, c'est la galère en bus, parce qu'il faudrait repartir par un endroit, reprendre, repasser par Vinong, etc. N'hésitez pas à demander à l'hôtel « Hey, combien ça coûte en voiture privée d'aller jusqu'à Kanto ?» Il va vous dire un truc sur 60 euros. Est-ce que ça vaut le coup de changer deux fois de bus parce que vous êtes dans un endroit vraiment paumé, de ne pas être sûr, etc. Il va faire chaud, on va transpirer comme des dingues, on va être de mauvaise humeur, on va s'engueuler parce que moi je voulais manger et puis ben, en fait mon mari ou ma copine elle a voulu... Parfois ça ne vaut pas le coup. Donc n'hésitez pas, les prix des transports ne sont pas forcément dingues parce que les distances sont assez faibles. Je prends souvent cet exemple. La fois où je suis allé au Mekongo, directement par moi-même, j'ai pris mon vol jusqu'à Saigon. Et oui, c'est rare, mais là, cette fois, c'était le cas. Puisqu'en fait, en 2 heures de route entre Saigon et Benche, bah, vous êtes directement connecté. C'est assez facile. Donc, j'ai demandé à l'hôtel à Mekongo, « Hey, combien tu me prends pour m'organiser le transfert directement ?» Ils m'ont dit, je ne sais plus, 50 euros, 60 euros, 70 euros, un truc comme ça. Et donc là, je me retrouvais à... Ok, j'arrive à 10 heures du matin à l'aéroport. Si je prends le transfert privé qui va me coûter 60 euros, à midi, je suis à l'hôtel et je vais même manger à l'hôtel tranquillement. J'aurai le transfert directement à l'aéroport. Le mec, il va m'attendre avec le panneau. Je vais attendre 5 minutes à un endroit. Il va rapporter la voiture. On va monter dedans. Il y aura déjà la clim. Ce sera impeccable. Versus, j'arrive à 10 heures à l'aéroport. Il faut que je trouve un taxi qui va m'emmener à la gare de bus. Est-ce qu'il va m'arnaquer ou pas? Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. À la gare de bus, il faut que je trouve mon bus. Il va sûrement faire chaud. Je vais sûrement galérer. Je vais sûrement pas comprendre. Il y aura du monde. Il faudra peut-être que j'attrape un truc à manger, donc peut-être un banh mi, j'espère qu'il sera bon. Ensuite, que je prenne mon bus jusqu'à Benche. Et de Benche, il faudra encore que je prenne une navette ou un taxi pour aller jusqu'à mon hôtel. Ça, c'est très vrai lorsque vous allez vouloir aller dans la campagne du Delta. Vous allez avoir ce genre de problème. Donc, n'hésitez pas à demander à votre hôtel. En plus, les différences de prix vont peut-être pas forcément être si énormes. Dans mon exemple, il fallait prendre 2 taxis, 1 bus. Ça va peut-être vous coûter 10 euros, 6 euros, 10 euros. Ça va vous coûter 30 euros rapidement versus l'autre à 60 euros. Franchement, ça valait le coup, je pense, de prendre votre transfert. Ça fonctionne évidemment pour les petits sauts de puce. Lorsque vous allez aller de Saigon à Chodok, c'est 5 heures de route, là, ça ne va pas vous coûter 60 euros. Donc là, il faudra forcément prendre le bus. Pensez-y aussi, donc on a parlé des vols jusqu'à Kanto qui sont très faciles. Vous avez d'ailleurs d'autres vols. Hein. Vous avez un vol de Hanoï à Kamo notamment. Vous avez un vol de Hanoï à Raksa. Donc en fait, vous avez quelques aéroports dans le Delta qui permettent souvent de gagner beaucoup de temps. Si vous souhaitez vous faire un programme par vous-même, 100% indépendant, que vous êtes un peu jeune, que vous aimez un peu faire de moto, il est très facile de louer des motos depuis Kanto et de faire des boucles, entre guillemets, dans le Delta. C'est ce que je fais à chaque fois. même c'est très facile de rejoindre par la mer, enfin aller à la plage et revenir, etc. Ça, c'est vraiment très facile. Donc à Kanto, vous trouverez des loueurs de moto. C'est ce que j'ai fait notamment lors de mon dernier voyage à Kamo. Je vous prends un exemple tout bête. J'ai pris mon vol de Hanoï à Kanto directement. J'ai passé une nuit à Kanto. Et le lendemain, j'ai récupéré ma moto de location pour, je crois, 9 jours. Je suis parti dans la province de Kamo, je suis allé à Ngannam, je suis allé à Ragsa et compagnie. J'ai laissé ma moto à Ragsa et j'ai pris le bateau pour aller sur Namzu et Hanson, qui sont deux îles au sud de Phu Quoc. L'hôtel de Ragsa gardait les motos gratuitement, puisque la plupart des voyageurs font ça, surtout vietnamiens. Je suis revenu à Ragsa, j'ai repris ma moto, je suis retourné à Long Suyen, je suis revenu à Kanto. J'ai passé 9 jours, c'était très facile, j'ai eu ma moto, bref, c'était impeccable. Vous n'aurez pas forcément des facilités énormes pour trouver des motos autre part qu'à Kanto. Alors, lorsque je vous dis ça, en fait, dans toutes les villes, vous trouverez où louer des scooters. Tous les hôtels vont vous louer un scooter à la journée. Par contre, si vous êtes dans une ville paumée du Delta et qu'il faut trouver une moto pour 9 jours, vous allez partir, le loueur ne va peut-être pas vous dire « Bon, t'es gentil, toi, avec ton projet, mais c'est peut-être pas forcément ce que je souhaite faire tout le temps. » Ça, vous le trouverez à Kanto très facilement. Je viens d'en parler très rapidement aussi. On parle des transports et je sais que ça va arriver. C'est pas directement le Delta du Mekong, mais il est très facile de rejoindre Phu Quoc, Condao et d'autres îles dans le delta du Mekong. Je fais très rapidement et vous trouverez beaucoup d'informations sur le blog, mais pour aller à Phu Quoc, vous avez un vol depuis Kanto, donc si vous voulez gagner du temps, et vous avez des bateaux depuis Ragsa, qui est la grande ville à l'ouest de Kanto, vraiment une grosse ville d'ailleurs, il y a beaucoup de monde, et Hat Yen, qui est une petite ville vraiment super sympa à l'ouest de Chu Doc. Et si vous êtes à Chu Doc et vous voulez aller à Phu Quoc, honnêtement, passez une nuit, voire presque deux à Hat Yen, ça vaut le coup, c'est super sympa. Et là, vous avez des bateaux pour aller jusqu'à Phu Quoc. Si vous voulez aller à Condao, vous avez un vol depuis Kanto et vous avez aussi des bateaux depuis Kanto. C'est assez nouveau. Sinon, vous avez des bateaux depuis Sok Chong, des gros bateaux même qui partent de Kanto. Si vous cherchez des informations sur Internet, vous trouverez très facilement. Les bateaux partent du centre de Kanto d'ailleurs, donc c'est très, très, très facile. Si vous cherchez des zones de plage beaucoup moins connues, vous avez Namzu et Hanson. Et là, ces deux îles ne sont accessibles que par Ragsa depuis le delta du Mekong. En théorie, et je dis bien en théorie, vous avez aussi un bateau depuis Kamo et un bateau depuis Phu Quoc pour aller à Namzu. Mais là, ça commence à devenir hyper technique. Donc oui, c'est possible si par hasard, il y a une personne sur le podcast qui écoute et qui a prévu ce voyage. Mais généralement, si vous voulez aller sur ces petites îles de Namzu et de Hanson, Hanson d'ailleurs vraiment hyper sympa, mais je pense qu'on fera un épisode spécial plage au Vietnam. Ça, c'est que depuis Ragsa. Quand je dis Ragsa, ça s'écrit R-A-C-H, plus loin, G-I-A. Et oui, il y a un aéroport avec des vols vers Hanoï. Donc ça, c'est pour vous expliquer rapidement les transports. D'une part, n'oubliez pas qu'il y a des aéroports dans le delta du Mekong. D'autre part, les transports en bus sont beaucoup plus faciles qu'ils n'y paraissent. Les distances ne sont pas si énormes. Donc pensez-y, peut-être une voiture privée, c'est assez facile. Contactez votre hôtel, ils vous donneront le prix. Vous dites oui, vous dites non, ça c'est à vous de décider. Si vous souhaitez louer une moto pour vous faire un petit voyage, il faudra le faire depuis Saigon ou depuis Kanto, très simple. Et enfin, la connexion avec la plage, il y a au final pas mal de bateaux et quelques vols. J'espère que j'ai perdu personne. Là, normalement, vous commencez à vraiment connaître pas mal de choses sur le Delta. Vous commencez à comprendre, cette zone a l'air vachement intéressante. Je pensais que le marché flottant, ça allait être le point incroyable de mon voyage. En fait, pas du tout. En fait, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Peut-être que le transfert, ça va être facile pour nous, parce qu'il ne faut pas oublier, on a aussi deux enfants en bas âge, donc on va peut-être gagner du temps plutôt que de prendre les bus. Maintenant, je vais vous parler des 5 hôtels à connaître, et juste après, on terminera par quelques idées d'itinéraire. Donc on est bientôt sur la fin de cet épisode. 5 hôtels à connaître. Les deux premiers, ce sont les deux Victoria de Chu Doc. J'adore les deux Victoria de Chu Doc. J'ai été invité d'ailleurs il y a quelques années, en 2018, et j'y suis retourné plusieurs fois, j'ai payé plusieurs fois. Les deux Victoria sont vraiment super. Vous avez le Victoria Nui Sam, qui est sur la colline de Nui Sam, qui en gros, à l'époque où j'y suis allé, moi, c'était plutôt un 3 étoiles. Entre-temps, ils ont refait les chambres. Donc, je ne suis pas allé depuis qu'ils ont refait les chambres, mais ça a l'air mieux. Et vous avez cette piscine complètement folle, l'espèce de restaurant avec une vue panoramique sur les rizières. Franchement, c'est dingo. Pour les photos Insta, si votre délire, c'est ça, mais vous allez adorer. Et vous êtes en plus au milieu de la campagne, vous pouvez louer des scooters. Donc, c'est assez simple. Ça, c'est le Victoria Nui Sam. Je préfère le Victoria Chu Doc, qui est le Victoria en plein centre de la ville, qui a une ambiance de déglingo. On a un peu l'impression de retourner dans le film Indochine. On a un peu cette impression de bâtiment colonial. Le matin, vous ouvrez les rideaux, c'est lever de soleil et vous êtes en fait à la jonction entre le Mekong, enfin le Bassac à ce moment-là, et le fleuve Chu Doc. avec les maisons flottantes, avec tous les bateaux qui passent. C'est un délire. Les chambres sont vraiment bien et la vue le matin en ouvrant, mais c'est, on a l'impression d'être dans un film, vraiment. En plus, c'est très simple d'organiser autour. Donc pensez-y, les deux Victoria à Chodok sont vraiment, je pense, incontournables. Et si vous n'avez pas le budget pour ces Victoria, j'en ai déjà parlé juste avant, n'hésitez pas à aller le soir au Victoria Nussam pour le coucher de soleil. Donc ça ne va pas vous coûter 50 000 euros de prendre un coquin, vous inquiétez pas, vous êtes à Chodok. Vous pouvez même aller manger, si vous voulez, au Victoria Chodok le soir, parce qu'ils font quelques plats occidentaux. Donc si vous n'avez rien contre une pizza, pourquoi pas. Je pense quand même que le Victoria Chodok, c'est plus intéressant en journée, puisque vous pouvez voir tous les bateaux et que c'est vachement sympa. Mais sinon, à Chodok, il y a 50 000 hôtels, pas très cher. Donc regardez sur Booking, vous en trouverez plein. Il y a notamment Murray Guest House. Autre hôtel à connaître, et on va parler de deux hôtels plutôt dans la campagne, parce que là, c'est deux hôtels à Chodok. Et vous avez bien compris, eh ben Chodok, mec, tu nous l'as dit 50 fois que c'était incroyable. T'as quoi d'autre à nous proposer? T'as quoi d'autre dans ton magasin? Dans mon magasin, j'ai deux adresses de charme avec piscine qui sont les deux meilleures adresses du Delta, c'est sûr et certain. La première, c'est le Mekong Home au sud de Benché. Donc c'est à peu près à un quart d'heure au sud de Benché. Benché, c'est la zone connue pour la noix de coco. Le Mekong Home, c'est l'hôtel de charme rêvé des Français. Ça ne coûte pas un bras. Les chambres sont sympas. Il y a une piscine au milieu de l'hôtel. Et c'est directement du coup dans les noix de coco de Benché. C'est directement au bord d'un des bras du Mekong derrière sur la fin. C'est super sympa. Il y a vraiment une ambiance. Il y a très peu d'hôtels autour, même si maintenant, vous avez quelques autres choix à quelques kilomètres. Mais c'est un hôtel vraiment super puisqu'il y a la piscine, puisqu'on peut faire des balades en bateau, puisqu'on peut faire des balades à vélo. Donc, comme introduction au delta du Mekong, y passer une ou deux nuits, c'est le meilleur moyen de se dire « Ah bah Brice, il avait raison. En fait, au delta, c'est incroyable. » On est parti le matin en vélo au marché, il y avait une ambiance de fou, les mamies, les gens qui nous disaient bonjour. On a pris le ferry comme les locaux, incroyable, lever de soleil sur le Mekong, etc. On est revenu pour manger, bah, c'était super sympa, ils faisaient des Banksio locaux, ils faisaient vraiment la bonne cuisine. En milieu d'après-midi, bah ouais, c'est vrai qu'il faisait un peu chaud, hein. Donc on a fait un petit plouf dans la piscine, il ne faut pas oublier qu'on est en vacances. Et en fin de journée, on est reparti sur notre bateau pour faire la croisière au sunset avec une bonne bière. Bah, ça fonctionne, ça c'est le meilleur moyen d'adorer le delta du Mekong, dans une ambiance calme et reposante. Vous avez entre guillemets un hôtel qui ressemble beaucoup au Mekong Home, mais qui est un peu différent, qui est le Coco Riverside Lodge, qui est un peu plus loin dans le delta, donc en fait qui est entre la province de Villelong et de Chavin. Et quand je vous sors les noms, je pense que je vous perds à chaque fois. Mais si vous regardez sur une carte et que vous appuyez sur Spotify 15 secondes en arrière, Villelong Chavin, Coco Riverside Lodge. Cet hôtel est un peu moins charmant. Dans l'idée, ça a un peu moins été construit pour des Français, on va dire. C'est un chouïa moins charmant, mais c'est sur un bras du Mekong superbe parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de bateaux qui passent. Vous avez aussi une piscine un peu à l'arrière de l'hôtel. Et l'énorme avantage de cet endroit, c'est que bah, vous êtes au milieu de nulle part. Il y a très peu d'hôtels autour. Enfin, il n'y en a aucun d'ailleurs. Mais quand je dis autour, c'est peut-être le premier, je pense qu'il est à 15-20 minutes de route. Et vous avez beaucoup de choses à faire dans cette zone. L'hôtel organise des tours en bateau vraiment sympas jusqu'au marché local du coin et le temple Kaolai, pardon, je vais dire pagode, je sais plus, non, un temple. Vous avez des balades en vélo super sympas parce qu'il y a beaucoup de rides autour de Coco Riverside Lodge. À Benché, c'est que de la noix de coco quasiment. Il faut aller au sud à Bachi pour voir des rizières. À Coco Riverside Lodge, vous êtes entouré de rizières. Il y a pas mal d'activités à faire. C'est hyper sympa et vous avez un peu plus de choses à voir au Coco Riverside Lodge qu'au Mekong Home. Alors faites attention au moment où j'enregistre ce podcast. Le Coco Riverside Lodge n'ouvre pas ses réservations sur Booking, donc vous verrez à chaque fois que c'est complet. Si vous les contactez directement, ce n'est pas complet. Regardez bien, pour moi, c'est les deux meilleures options dans la campagne. Il en existe d'autres. Si vous cherchez bien sur Booking en mettant directement la carte, vous trouverez parfois des hôtels un peu paumés. Il y en a un autre à Sadek, il y en a quelques autres dans la campagne de Benché ou ceux entre Benché et la province de Villelong. Il y a pas mal de choix, certains très connus des Français. Je ne suis pas allé partout, donc c'est difficile de vous dire « Ah bah lui, il est vraiment, c'est le mieux de tous, etc. » Mais normalement, Mekong Home, Mekong Riverside Lodge, c'est les deux meilleurs. C'est entre guillemets les plus connus de ceux qui vont beaucoup dans le delta du Mekong. Et surtout, vous avez deux piscines et des choses à faire autour. Donc c'est vraiment deux adresses que je recommande chaudement. D'ailleurs, je vous le recommande, hein, mais allez regarder les avis sur Internet. Hein, vous verrez Mekong Home, je ne sais pas combien ils ont sur Booking, mais je pense qu'il y en aura genre 9 et quelques. Donc tout le monde est très content, n'hésitez pas à aller voir les avis directement. Cinquième hôtel, donc on a parlé des deux Victoria Chodok, Victoria Nussam, Victoria Chodok. On a parlé du Mekong Home à Benché. On a parlé du Coco Riverside Lodge entre Chavin et Villelong. Le dernier hôtel à mentionner, c'est The Island Lodge, qui est l'hôtel pour kiffer avant de repartir. Kiffer, d'ailleurs, je pense que ça se dit pas, non? J'ai 35 ans. Je pense que les gens disent plus ça. Bref, revenons à The Island Lodge. En gros, The Island Lodge, c'est un hôtel au bord du Mekong, directement à Mitte. Donc Mitte, c'est le premier endroit à visiter dans le delta du Mekong, et c'est généralement là il y a beaucoup de groupes, beaucoup de surtourisme à la journée depuis Saigon. Si vous réservez un tour, une journée dans le delta du Mekong avec la balade en bateau, la balade sur les barques, etc., c'est sûr que c'est à Mitte. Donc par moment, Mitte, ça peut être aussi assez nul. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le mentionner, hein, mais il ne faut surtout pas faire ces visites à la journée ou même deux jours avec une agence de Saigon. Bref, revenons à The Island Lodge. The Island Lodge, c'est l'hôtel de charme par excellence. Super restauration, chambre vraiment sympa au bord du Mekong. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous êtes dans le delta et qu'il vous reste une ou deux nuits, et vous allez souvent vous dire, bah, on n'a pas le temps d'aller à la plage. On ne va pas aller à Phu Quoc et prendre un vol, etc. pour passer une journée complète sur place, ça n'a aucun sens. Donc regardez du côté de The Island Lodge, qui est quand même un hôtel à quasiment 200€ la nuit. C'est quand même un budget un peu plus important. Mais en fait, l'énorme avantage de cet hôtel, c'est que vous n'êtes pas si loin que ça de l'aéroport. Donc si vous avez votre vol tout bête, hein, mais vous revenez en France et votre vol est à 20h, en fait, vous allez passer une ou deux nuits sur la fin de votre voyage. Plutôt que de rentrer dans Saigon avec les transports, avec les klaxons, etc., où vous allez aussi payer votre hôtel cher, parce qu'à Saigon, les hôtels sont plus chers, regardez du côté de The Island Lodge. Le dernier jour avant votre vol, vous serez toujours dans votre chambre. Vous allez ouvrir les rideaux, le Mekong. Vous allez descendre au petit-déj qui sera super bon, le Mekong. Vous allez libérer votre chambre à midi. Vous allez mettre vos affaires. Vous allez prendre votre dernier déjeuner. Vous allez prendre votre direct voiture vers l'aéroport. Puisque du coup, il n'y a pas de choses vraiment compliquées sur la route. Hein. Vous prévoyez deux heures et puis c'est réglé. Vous prévoyez évidemment un petit peu plus de temps à l'avance. Mais ça se fait très bien. Il y a beaucoup de gens du coup qui terminent par cet hôtel ou dans cette approche-là, on va dire. De passer deux nuits dans un hôtel un peu paumé, on fait rien, on va à la piscine et on mange bien. Ça se fait beaucoup. Regardez du côté de The Island Lodge. J'y suis passé il y a quelques années, j'avais beaucoup aimé. Et d'ailleurs, ils organisent aussi des balades en bateau et en vélo. Super sympa, surtout pour le vélo. Regardez directement et vous pouvez contacter directement Michel, puisqu'évidemment, le propriétaire est français. C'est tout, je crois, pour les hôtels. Je réfléchis deux secondes. Non, c'est ça, De Victoria, Mekong Boom, Corriverse Lodge, The Island Lodge. C'est les éléments essentiels. Évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument aller dans ces hôtels, mais ces cinq hôtels sont hyper connus et c'est la meilleure façon de profiter du Delta. On a quasiment fini. Maintenant, on va se focaliser sur un ou deux itinéraires. Et c'est terminé. C'est parti. Ça fait 52 minutes que j'enregistre ce podcast et je prie par tous les dieux que cette fois ça va fonctionner, parce que je l'ai déjà enregistré deux fois, et que j'en ai marre de répéter que Chodok c'est incroyable, que le coucou Reversal Ledge c'est super sympa, et attention à Kanto au marché flottant, j'espère que cette fois ça va fonctionner, Inch'Allah et tous les dieux, on sait jamais, faites que cet enregistrement fonctionne et qu'il n'y ait pas de soucis. Bref, on va repartir sur l'itinéraire. Je vais vous donner ici un itinéraire facile et clé en main, pour bien comprendre en gros le delta du Mekong, voir plein de choses différentes, et rester flexible. Vous arrivez à Saigon, puisque vous avez fait l'erreur, comme tout le monde, d'aller à Saigon. Vous prenez directement la voiture ou le bus ou ce que vous souhaitez et vous allez passer deux nuits dans la campagne. Deux options, Mekong Home à Benché ou Koko Rivershell Lodge à Vung Liem. Vous avez d'autres options beaucoup moins chères si vous le souhaitez autour de Benché. Regardez, ne dormez pas dans la ville, mais autour de Benché. Et vous passez deux nuits dans la campagne. Le but, évidemment, c'est d'avoir une approche cool, calme et zen. Donc, pas d'entendre les klaxons toute la journée. Et au contraire, de vous faire des petites balades en vélo et ce genre de choses. Après deux nuits, vous allez prendre la route et vous allez rejoindre Kanto pour une nuit. Le but, en fait, c'est de récupérer les transports à Kanto, puisque ça va faciliter la chose, et d'aller voir le marché flottant, puisque vous allez quand même vouloir y voir très probablement. Là, vous allez quitter Kanto généralement, puisque vous allez prendre votre vol ou le bateau vers Kondao, vers Phu Quoc et ce genre de choses. D'accord ? Ça, c'est l'itinéraire de trois nuits, entre guillemets classique, valeur sûre, même si le marché flottant de Kanto est beaucoup moins intéressant, vous devrez repasser par Kanto pour les transports. Si vous avez plus de temps dans le delta du Mekong, vous passez vos deux nuits à Mekong Home ou à Benché, ou à Koko Reversal Lodge, et ensuite, plutôt que d'aller à Kanto, on va essayer de rejoindre Long Suyen. Pourquoi on va rejoindre Long Suyen? Parce qu'en fait, Long Suyen, c'est le nouveau Kanto, ville pas forcément si intéressante que ça. En revanche, vous avez le marché flottant de Long Suyen qui est le plus beau marché flottant encore actif. Pas forcément un marché flottant incroyable, hein, c'est pas ce que je veux vous dire, mais si vous êtes déçu de Long Suyen, vous auriez été déçu de tous les autres marchés flottants, et vous avez aussi un super marché terrestre, et Long Suyen, c'est pas touristique du tout. La bascule entre cette partie campagne du Delta, Benché, Koko Rivershell Lodge, etc. sera un peu plus technique, mais une fois que vous êtes à Long Suyen, c'est bon. Pourquoi je vous dis c'est bon? Parce qu'ensuite, on va prendre un transport pour aller jusqu'à Chodok, qui est juste au nord de Longxuyen, qui est d'ailleurs dans la même province. Et là, évidemment, on va passer 2 à 3 nuits à Chodok en fonction de ce qu'on souhaite faire. Chodok, j'en ai parlé 50 000 fois dans ce podcast, beaucoup de choses à voir. Chasu, Nuit Sam, les rizières, etc., etc. Vous avez bien compris. Superbe, superbe région. Là, vous avez commencé déjà à passer pas mal de temps. Vous avez passé 2 nuits dans la campagne au début, 1 nuit dans la ville de Longxuyen et 2 à 3 nuits, on va dire 2 nuits à Chodok. Vous êtes déjà à 5 nuits dans le delta. Là, vous avez plusieurs options encore une fois. Est-ce que vous rentrez à Saigon directement? Vous aurez vu le delta de campagne, vous aurez vu un marché flottant et un supermarché terrestre, vous aurez vu Chodok et tout ce qu'il y a à voir autour. Vous rentrez à Saigon, vous repartez en France, vous rentrez à Saigon, vous prenez votre vol pour encore, un peu ce que vous souhaitez. Ou, et je ne fais pas les transitions pour le Cambodge pour rien, vous prenez un bus de Chodok jusqu'à Hat Yen, il n'y a même pas 2 heures de route, et là vous passez une nuit à Hat Yen. Pourquoi Hat Yen? Hat Yen déjà c'est une ville hyper sympa, hyper jolie, hyper charmante, qui est en bord de mer et au bord de rivière, les deux à la fois. Et de Hat Yen, vous pouvez prendre directement un transport jusqu'au Cambodge, jusqu'à notamment Kep et Kampot. Sinon, de Hat Yen, vous pouvez aussi prendre le bateau pour Phucoc. Donc là, vous avez déjà bien compris, on est à 6 nuits, quasiment déjà une semaine, et on a vu un peu tout. De la campagne et des noix de coco à Ben Che, on a vu les marchés flottants, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. On est même passé à Hat Yen, qui est une ville un peu sympa, on est allé au marché le matin. Hyper, hyper, hyper sympa. Vous voyez un peu ce genre d'itinéraire qu'on peut faire. La base, dans tous les cas, je pense, c'est de passer 2 jours dans un hôtel au calme, dans la campagne, au début, surtout si vous venez de Saigon. Sinon, la base, c'est de passer quelques jours à Chodok, au moins. Parce qu'en fait, ces deux expériences-là, ces deux destinations, ces deux types de destinations, Chodok, parce que c'est waouh et qu'il y a 50 000 trucs à faire, et Mekong Home, Koko River Sherlock, etc., parce que c'est de la campagne, et c'est un peu le cliché que vous imaginez du delta du Mekong, quoi. Vous allez devant votre hôtel, bah, il va y avoir un mec en bateau qui va passer, qui va vous faire coucou. Vous allez prendre votre vélo, vous allez aller au marché, ils vendent des fruits, des légumes, de tout. Vous allez avoir les mamies qui vous font des sourires, le ferry local, vous dire ah putain, c'est pour ça que je suis venu. Et bah, ça, en fait, ça fonctionne. Après, le but, c'est d'ajouter des blocs en fonction des éléments intéressants. Oui, j'ai passé 2 jours dans la campagne, mais oui, je vais aller dans une grande ville parce qu'il faut que j'aille dans la grande ville pour voir le marché flottant intéressant et le grand marché. Mais je ne vais pas y rester 3 nuits dans cette ville de Longxuyen. J'y passe une nuit et le lendemain, je me barre. Je vais jusqu'à Chodok parce que Chodok, c'est vachement intéressant. Et ça, en fait, une fois que vous arrivez à mettre vos blocs intéressants ensemble et à voir pour les transports comment je m'organise, c'est très facile. Dans l'exemple, 2 nuits campagne, 1 nuit Longxuyen, 2 nuits Chodok, 1 nuit Hat Yen, vous voyez des trucs différents tout le temps. Super intéressant, super beau, des influences différentes. Vous allez voir vraiment de tout. Donc, focalisez-vous là-dessus, ça va être le meilleur moyen de profiter. Je pense que la plupart des voyageurs, bah, généralement, ils n'ont pas trop de temps. Ils passent 2 à 3 nuits dans le Delta. Dans ce cas-là, bah... c'est le premier voyage. Hein. 2 jours dans la campagne, 1 nuit à Kanto, ils vont reprendre 20 transports. Mais généralement, dans le détail, il y a beaucoup de choses à voir. Encore une fois, je me suis focalisé dans cet épisode sur une introduction au Delta. Là, je ne vous ai pas parlé de Sokchang, de Baklieu, de Kamo, de zones complètement paumées où il n'y a pas grand monde. Et est-ce que je vais passer à Kaolan, à Dongtap pour aller voir la forêt de Tram Chim? Non, ce n'était pas le but de cet itinéraire-là. Le but, c'est vraiment de vous donner les clés pour comprendre. Et donc, si vous avez 3 nuits, si vous avez 5 nuits, vous n'avez pas forcément envie d'aller à la plage, ou si vous avez 7 nuits, il faut que vous alliez à Phucoc juste après, parce que bah, c'est un super endroit pour la plage. Hein. Le Vietnam n'est pas un pays de plage. Phucoc reste une destination, entre guillemets, facile pour la plage. Et ben, le Delta, ça fonctionne. D'accord ? J'espère que j'ai été très clair dans ce podcast. Je viens de vous donner beaucoup d'informations, mais j'espère que ça a été assez clair. C'est déjà la fin de cet épisode sur l'introduction au delta du Mekong. Encore une fois, si vous avez été paumé avec tous ces noms de villes un peu bizarres, parce que surtout quand je dis Ben Che, ça s'écrit B-E-N plus loin de T-R-E, généralement les gens sont un peu perdus, n'hésitez pas à regarder directement sur le blog, donc worldwidebreeze.net, vous avez un onglet podcast, et pour chaque podcast, un épisode avec toutes les villes qui sont mentionnées. Donc jetez un coup d'œil, vous retrouverez très facilement. J'espère que toutes les informations ont été claires dans cet épisode de podcast. J'espère que ça va vous donner envie de passer plus de temps dans le delta du Mekong. Parce que oui, le delta du Mekong est une zone de malade. Est-ce que le delta est plus beau que le nord? Est-ce que le delta est plus beau que le centre? Est-ce que le delta est plus beau que les hauts plateaux? Encore une fois, je pense que tout est une période de saison. Et oui, je n'irai pas dans le delta en septembre si j'ai la chance d'aller pouvoir faire la récolte des rizières dans le nord à Mukong Chai Wang Sufi parce que ça va être du délire. Et non, je vais préférer aller par exemple dans le centre du Vietnam si nous sommes en juin, puisque dans le centre du Vietnam, il ne va pas vraiment pleuvoir. C'est une saison relativement correcte, juin-juillet, pour aller dans le centre, et beaucoup moins bien pour aller dans le delta. Est-ce que je vais partir dans le Delta dans un voyage de complètement dingue si je suis avec un bébé? Bah, pas forcément, etc. Donc, encore une fois, le but pour vous, c'est de faire les choix. Moi, je vous donne toutes les informations sur à quel moment c'est intéressant d'y aller, à quoi faire attention, quelles sont les erreurs typiques, pourquoi il ne faut pas rêver du marché flottant, quelques hôtels vraiment sympas. Après, à vous de faire votre itinéraire. Mais dans tous les cas, le Delta, c'est une zone de dingue. Et confiante en Delta, si vous passez par Chuuk, globalement, c'est impossible d'être déçu du Delta du Mekong. Par contre, si vous faites un tour à la journée depuis Saigon, vous allez trouver le Delta nul. Si vous faites deux jours une nuit dans le Delta du Mekong en vous disant « Ah, on va à Canto pour le marché flottant », il y a quand même beaucoup de chances que vous n'aimiez pas ça. Pas facile le français. Le prochain épisode du podcast sera publié à la prochaine pleine lune. Je vais essayer cette fois de ne pas être en retard. Et on va se focaliser sur les marchés flottants, un par un. Et je vais vous faire un rapide état des lieux. Donc oui, le prochain épisode de podcast sera beaucoup plus court, mais se focalisera uniquement sur un thème qui est vachement important avant votre voyage. Si vous avez la moindre question, je vous en supplie, surtout ne tapez pas directement sur mon mail ou sur mes réseaux sociaux. Hey Brice, on est là deux semaines, etc. Parce que là, je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Mettez directement dans les commentaires du blog sur l'article en question. L'énorme avantage de ça, c'est que si vous posez une question de hey, comment je prends mon bus à Chuuk, eh ben en fait, il y aura sûrement un mec qui a eu la même question il y a 6 mois. Et donc, dans les commentaires de l'article de Chuuk, vous trouverez toutes ces informations. J'espère que tout a été clair. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de podcast. Surtout, j'espère que celui-ci va être publié. Parce que ça fait 50 fois que je l'enregistre. Et ben, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode des podcasts. Bye bye.